Les éditions Terre Vivante viennent de faire paraître un nouvel ouvrage de Sandra Lefrançois et Jean-Paul Thorez, « Plantes compagnes au potager bio, le guide des cultures associées ». Jean Tonelli s'est entretenu avec Jean-Paul Thorez.
Les plantes compagnes, quelle est leur utilité, leur nécessité dans un potager bio ?
Elles ont justement plein d'utilités. Pour faire vite, repousser les insectes nuisibles, attirer ceux qui sont utiles, nettoyer le sol des mauvaises herbes et des parasites et des maladies, attirer des papillons, des abeilles, et puis éventuellement bien se marier entre elles, c'est-à-dire être compatible sur le plan de la biochimie.
Donc si j'ai bien compris votre réponse très synthétique et en même temps globale, le jardinier se repose sur les plantes pour travailler moins.
Exactement, et pour utiliser peut-être moins de produits chimiques, et puis travailler moins, c'est-à-dire effectivement faire plus travailler les plantes, parce que finalement c'est des ressources inépuisables, elles sont capables de travailler toutes seules une fois qu'on les a mises en place, qu'on les a bien choisies, et du coup on a moins besoin de traiter, on a besoin de moins biner, de désherber, en général, de moins travailler.
Ce qui est important, c'est que tous ces conseils que vous avez dans votre livre viennent de l'observation de pas mal de personnes qui font un potager bio depuis longtemps, je pense.
Oui, alors il y a pas mal de sources différentes, et c'est ça qui fait l'intérêt du livre, c'est que on s'appuie d'une part sur des travaux faits par des techniciens ou des scientifiques, donc avec des essais comparatifs en plein champ ou en laboratoire, mais également sur la tradition, parce que le principe des cultures associées ou des plantes compagnes, c'est quelque chose qu'on retrouve à travers toute la planète et depuis très longtemps. Et puis il y a également la pratique des jardiniers bio, et les deux auteurs que nous sommes, nous sommes intéressés aux pratiques des jardiniers, notamment dans les jardins familiaux, c'est-à-dire ce qu'on appelait autrefois les jardins ouvriers. Et on voit qu'il y a pas mal de pratiques comme ça qui sont assez répandues et qui ont l'air de fonctionner. Donc on a rassemblé toutes ces connaissances pour en faire un livre pratique.
Oui, d'ailleurs il est pratique et en même temps il fait bien le point sur ce courant dont vous êtes en train de nous expliquer l'existence ancienne, puisque votre premier grand chapitre c'est les plantes compagnes à travers le temps, et donc là on a bien une mise en perspective de ce courant d'association des cultures.
Oui, il en était déjà question chez les Romains, enfin les auteurs latins et les agronomes romains parlent d'associations. Après, on retrouve ça à la Renaissance, et puis après, Olivier de Serres, hein, l'agronome du XVIe siècle qui a inventé pratiquement l'agronomie en Europe, il parle de plantes et de plantes compagnes.
On est bien dans une continuité en fait, et cette continuité elle s'est améliorée au fil du temps, et là vous avez quand même énormément d'aspects pratiques. Vous dites pourquoi il faut faire ce genre d'association, lesquelles plantes sont les plus utilisables par rapport à d'autres, et ainsi de suite.
Oui. J'aimerais bien donner quelques exemples.
Ah ben je vous écoute, voilà, avec grand plaisir.
Parce que finalement on parle de plantes, donc autant être précis. Alors évidemment il y a de très nombreuses plantes, et les combinaisons sont évidemment pratiquement infinies. Hein. Mais je crois qu'on pourrait pas parler de plantes compagnes sans en citer quelques-unes. Et je voulais par exemple parler du tagette, hein, ce qu'on appelle l'œillet d'Inde ou la rose d'Inde, qui est une fleur que tout le monde connaît. On en voit beaucoup dans les potagers. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est tout à fait fondé comme pratique d'associer le tagette et les légumes du potager. Parce que le tagette, il repousse un certain nombre d'insectes nuisibles comme les pucerons ou les mouches blanches. Donc ça, c'est tout à fait réel, ça a été prouvé. En plus, il nettoie le sol. Il nettoie le sol de vers parasites. Il contre les mauvaises herbes. Enfin, il a tout un tas d'atouts. En plus, il repousse des nuisibles, mais il attire des insectes auxiliaires, donc des insectes utiles. Donc il a beaucoup de qualités.
Oui.
Je sais pas, je pourrais citer par exemple la moutarde, qui est une plante qui n'est pas très connue des jardiniers, mais si on fait un engrais vert de moutarde, on nettoie le sol des mauvaises herbes. C'est-à-dire que quand on sème cette plante, les mauvaises herbes ne poussent pas.
Oui. Et en plus, elle a un avantage, elle a de jolies petites fleurs jaunes la plupart du temps, qui sont agréables à regarder.
Voilà, vous avez raison de souligner que le fait que les plantes qu'on utilise comme compagnes au potager, c'est souvent des fleurs. Bon, et c'est souvent des fleurs qui non seulement sont utiles, mais en plus elles sont belles, quoi. Donc il n'y a pas de raison de se priver. On a à la fois le plaisir et l'utilité.
Oui. Je pense que vous avez bien fait de donner des exemples précis, parce que c'est vrai que certaines fois, on se dit, mais qu'est-ce que c'est ce penchant esthétique de vouloir mélanger des fleurs au potager ? En fait, c'est pas ça du tout. C'est un penchant pratique.
Bah, voilà, c'est le principe des jardins de grand-mère, vous savez, avec les bordures du potager, le long des allées, avec tout un tas de plantes aromatiques, des fleurs. On pouvait se demander pourquoi, mais en fait, alors c'était peut-être pas forcément complètement voulu et raisonné, mais le fait est que ça a un impact pratique. Par exemple, les bordures de buis qu'on a dans beaucoup de jardins à la française, ou des jardins de château, ou des jardins de curé, petites bordures de buis taillées, bah, on sait maintenant que le buis tient à l'écart les campagnols, c'est-à-dire ce qu'on appelle les mulots, des rongeurs qui rongent les légumes ou les arbres fruitiers. Donc c'est tout à fait pertinent de mettre du buis, et en plus, bon, c'est joli, ça structure le jardin.
Oui. Ça a un petit côté clin d'œil à le nôtre, avec ce côté très rectiligne.
Exactement, et en même temps, le nôtre était peut-être un écolo qui s'ignorait.
En utilisant le buis à foison. J'ai beaucoup apprécié aussi dans votre livre un grand chapitre qui s'appelle « Répertoire des plantes compagnes et des petites bêtes du jardin ». Ce qui est assez amusant pour moi, c'est d'avoir associé les deux et pas avoir fait deux chapitres différents. Et c'est superbe de passer d'abeilles à abricotiers, d'absinthe à acariens, pour prendre la première page du répertoire.
Ça paraît assez évident parce que, en fait, les insectes sont liés aux plantes. Et les plantes nous aident à gérer les insectes. Donc il est difficile de les séparer, et c'est volontairement, évidemment, qu'on les a mélangés dans le répertoire, parce qu'on passe sans cesse des fleurs aux légumes et aux insectes. Donc quand on parle du chou, on parle de la pierride, qui est un papillon, et quand on parle de la pierride, on parle du chou, et quand on parle du chou, on parle de la sauge qu'on peut associer à la pierride pour éloigner au chou pour éloigner les pierrides. Donc c'est sans cesse des scénarios différents, et tous les acteurs sont là.
Voilà. Et aujourd'hui, ce qui est important aussi, c'est qu'on voit que les cloisons tombent. D'un côté, les entomologistes, d'un côté, les botanistes. Et en fait, si on veut être jardinier, il faut être les deux à la fois. Partir avec une synergie très forte entre les plantes et les insectes.
Voilà, c'est le principe de l'écologie. L'écologie, ça s'intéresse à la fois... ça s'intéresse pas seulement à une catégorie d'êtres vivants, ça s'intéresse surtout aux relations entre les êtres vivants, et donc entre les plantes, les animaux, et puis nous, les hommes. Là, on est en plein dans l'écologie pratique, en fait.
Ouais, sans oublier les oiseaux.
Les oiseaux, il en est question aussi, mais bon, peut-être un peu moins, parce que les oiseaux sont plus difficiles à gérer avec les plantes.
Ah oui, non, mais je pensais par rapport aux insectes, un grand prédateur d'insectes peu utile, voire nuisible pour nous, au jardin, sont les oiseaux. Un jour, j'avais une voisine qui me disait qu'elle adorait les oiseaux, mais pas les insectes. Mais je lui dis, madame, s'il n'y avait pas les insectes, il n'y aurait pas d'oiseaux.
C'est une remarque de bon sens.
Mais souvent, on l'oublie, et quand on utilise trop de produits chimiques, alors qu'il ne faudrait pas en utiliser du tout, on rompt cet équilibre, et on va finir par regretter de ne plus voir ce qu'on aimait, parce qu'on a détruit ce qu'on n'aimait pas.
Voilà. Donc, c'est vrai qu'il faut connaître. Finalement, le but d'un livre comme ça, c'est de faire connaître un certain nombre de choses aux gens, donc là, en l'occurrence aux jardiniers. Quand ils savent, ils ont l'envie de mettre en pratique. En
fait. Voilà, et ils font plus les erreurs qui étaient des erreurs de préjugés la plupart du temps. Exactement. En tout cas, votre livre, moi je l'ai beaucoup, je l'ai sous les yeux, et je pense que je l'aurai souvent sous les yeux, parce que c'est un livre qu'on n'abandonne pas comme ça et qu'on peut reprendre à tout moment. Il est très clair, il est très bien illustré, la mise en page est agréable. Je dirais presque qu'il est ergonomique.
Il est ergonomique, ouais. C'est un compliment qu'on me fait rarement. Je voulais associer à ce que vous dites ma co-auteure, qui s'appelle Sandra Lefrançois, qui a notamment fait beaucoup de photos, et le livre, la beauté du livre, en fait, lui doit beaucoup.